Vous êtes le plus lâche de tous les salopards. Vous tirez sur un homme désarmé.
Là, il aurait mieux fait d'être armé s'il voulait décorer son saloon avec mon ami.
Les 400 coups. L'émission ciné des 400 coups.
De 17h30 à 18h.
Tous les premiers mercredis du mois sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les 400 coups, l'émission radio des cinémas Les 400 coups. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers sur le 103 FM. Comment tu vas, Cécile ?
Mais ça va super, et toi, Georges ?
Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. Alors, au programme de cette émission, petit retour sur un film que nous aimons beaucoup dans l'équipe et qui était tourné près d'Angers. Nous parlons de La Pampa d'Antoine Chevrolier.
En deuxième partie d'émission, nous ferons le tour de l'actu avec nos événements à ne surtout pas manquer. Beaucoup de nouveautés très alléchantes en ce mois de mars et deux soirées plan culte très très chouettes. Ça se passe en dernière partie d'émission. Vous êtes prêts? Les 400 coups, l'émission, épisode 15, c'est parti!
Vous n'avez toujours pas vu La Pampa? Nos problémos. Eh bien, victime de son succès, le film est toujours à l'affiche aux 400 coups. Antoine Chevrolier, le réalisateur, nous a fait le plaisir de nous présenter son film lors de sa sortie.
Tout de suite, on vous passe un extrait de la soirée débat. Le réalisateur vous parle de la jeunesse de son film, de son histoire, du casting, de Longue et Jumelle, où il a vécu, ou encore de la musique. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site des 400 coups. Antoine Chevrolier pour La Pampa, c'est parti.
Bonsoir Antoine, c'est lui au premier plan. J'ai bien fait de venir de le voir la deuxième fois parce qu'il y a plein de choses que j'ai loupées la première fois. Alors la question que je voulais te poser, qu'est-ce qui t'a inspiré ce scénario ?
Moi je me pose tout le temps la question quand je me lance dans une potentielle histoire à mettre en scène. La première question que je me pose, c'est l'indispensabilité. À quel point en fait cette histoire, ces images, ces trajectoires sont indispensables ? Et donc ça permet de passer un peu comme ça au tamis certaines idées qu'on peut penser bonnes dans un premier temps et qu'ils ne le sont pas forcément. Et donc le film m'est apparu par des sensations liées à ma trajectoire, mais également des sensations liées à mon territoire. Il y a quelque chose... J'ai dialogué avec le film dans un premier temps, avec ses images, avec ses sensations. Et puis ensuite, avec Bérénice Bocquillon et Faye Zagen, les co-scénaristes du film, on a essayé de structurer un tout petit peu ces sensations et d'y injecter plus ou moins consciemment, parce qu'après, c'est encore une fois, c'est le film qui parle et c'est lui qui est plus fort que tout, mais d'y insérer en fait toutes ces thématiques et les enjeux qui nous semblaient importants et qui inhérente à cette ruralité.
Et justement, tu parlais d'endroits, mais d'endroits d'émotion. Moi, je voudrais qu'on parle d'endroits du lieu. Est-ce que ce film aurait pu être tourné ailleurs qu'à Longue et Jumelle, que dans cette région ? Parce qu'on peut imaginer qu'il y a des terrains de motocross un peu partout en France, avec des fleuves aussi. Alors, peut-être pas aussi beau que la Loire, mais est-ce qu'il aurait pu être tourné ailleurs, ce film-là ?
En fait, pour être tout à fait honnête, moi, je ne m'étais pas autorisé à imaginer qu'il puisse se passer à Longue chez moi, enfin, dans la région, quoi. C'est-à-dire que quand on a commencé à penser le film, quand le film m'est apparu, je m'étais dit... un peu naïvement que ça pouvait se passer partout, et même je pense avoir fait un peu le sens contraire, c'est-à-dire de me dire non mais c'est pas possible, comme une espèce d'autorisation, parce que je crois que le film parle beaucoup aussi d'autorisation, et je m'étais pas autorisé à imaginer que mon village, les gens que j'aime qui habitent ce village pouvaient servir et de toile de fond mais aussi de premier plan, sans mauvais ou sans plutôt bon jeu de mots. Je m'étais pas autorisé au fait que ce soit possible. Puis ensuite, quand on a creusé, sculpté un peu le film comme ça et que les situations nous sont apparues, en fait, c'était pas possible autrement, parce que en fait, quand j'écrivais, je voyais une partie de ma famille vit encore là-bas. Ma nièce m'a montré, c'est elle qui m'a montré l'état de l'hôpital désaffecté que vous voyez dans le film, alors qu'à l'époque, en fait, il était encore, enfin, à l'époque où moi j'étais encore à Longue. Du coup, il y avait quelque chose quand j'écrivais et quand je me plongeais dans les scènes et dans le film qui m'a poussé irrémédiablement à tourner à Longue et Jumelle dans un premier temps, puis ensuite la Loire est apparue, puis ensuite Angers, puis Saumur, et puis en fait, c'était très évident. Et aujourd'hui, c'est impossible d'imaginer le film ailleurs, évidemment, quoi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Léa, membre des ambassadeurs du cinéma à Angers. Déjà, félicitations pour la sortie de votre film. Et moi, ma question, c'était sur l'écriture des personnages et le casting. Est-ce que c'était directement lié, notamment Saïd, avec qui vous aviez déjà travaillé ? Est-ce que le rôle a été un peu pensé pour lui ? Ou est-ce que le casting a été un peu surprenant ?
Non, pas du tout. Pour une simple et bonne raison, enfin, pour plusieurs raisons en fait. La première, c'est qu'effectivement j'avais tourné avec Saïd dans une série qui s'appelle Oussekine, autour de la mort de Malik Oussekine en 86, et il incarnait Malik Oussekine. Et il s'avère qu'on est devenus très proches en fait, Saïd et moi, on est devenus vraiment amis. Quand on a commencé avec Alicia Cado, la directrice de casting, à chercher un tout petit peu les Willy, voilà, on s'autorisait absolument tout, acteurs professionnels, non professionnels, de théâtre, de mon village, enfin de mon village, j'ai dit ça parce que d'habitude ils connaissent pas, mais de Longuet, je pense que du coup ça parle un peu plus à Angers, quoi. De Longuet, enfin on s'autorisait absolument tout, quoi. Et puis on s'est très vite confronté à des problématiques, surtout sur le rôle de Jojo. Saïd, je trouvais pas Willy, je cherchais à travers, on a cherché à travers le cross, à travers différents, alors toute la catégorie de jeunes comédiens qui tournent un peu en ce moment, ils sont passés, mais il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Puis à un moment donné, le producteur du film, Nicolas Blanc, m'a dit, enfin on trouvait pas, et on approchait du tournage, alors on trouvait d'autres rôles, mais on trouvait pas Willy. Il m'a dit, ok, pour qui t'as du désir, qui t'as envie de filmer, quoi. Et je dis, je dois avouer que sur Oussekine, alors Oussekine, en fait, ça parle de Malik Oussekine, mais ça parle de la famille beaucoup, donc en fait, j'ai pas tant tourné que ça avec Saïd. Et j'avais eu le sentiment de pas avoir été au bout de quelque chose, je sentais qu'on pouvait creuser encore quelque chose ensemble. Donc il est venu un soir à la maison, parce qu'il passe très souvent à la maison, et il est venu, on discute et tout, il savait que j'étais en casting, et je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment besoin d'être sûr que c'est pas toi, donc est-ce que tu veux bien casser le casting demain, quoi. Il m'a dit, ouais, pas de problème. Il est revenu le lendemain, il s'était rasé le crâne, il est rentré dans la salle, et c'était hyper, hyper émouvant, parce qu'en fait, on se connaît vraiment très bien, il sait quel genre de rythme j'aime de jeu, enfin, il me connaît, quoi, il sait comment aller chercher les silences, il les supporte, quoi. C'est rare, des actrices et des acteurs qui supportent les silences, lui, il les supporte. Et du coup, il est venu, et au bout de 3 minutes, c'était réglé, quoi. Moi, je sautais comme ça, enfin, je lui ai pas dit tout de suite, mais j'étais dans le bureau à côté, je dis, ok, c'est lui, ça peut être personne d'autre, c'est lui et tout, quoi. Même quand je reparle, j'ai encore des frissons, tellement c'était puissant, quoi. Et après, sur les autres rôles, en fait, ça dépend un tout petit peu. Il y a Damien Bonnard, je savais que ça allait être lui dès le début. Enfin, j'avais très envie de lui, sauf qu'il a un planning fou. Damien, il tente beaucoup. Damien Bonnard, c'est David, le père. Mais bon, voilà, j'ai réussi à le convaincre. Léonie, Dahan Lamort, qui joue Marina, casting plus classique pour le coup. Actrice professionnelle, évidemment, mais casting plus classique. Jojo, casting sauvage. Il a jamais rien tourné. C'est son premier film, il avait jamais rien fait avant. Artus, j'avais tourné avec lui sur Le Bureau des Légendes, une série pareille sur Canal+. Il est apparu en saison 3 et je l'ai casté et on a beaucoup tourné ensemble. La petite sœur, Axel, elle vient de Longuet, de chez moi. Infinitif, il vient de Longuet. Donc voilà, c'est très anarchique, c'est de la même manière. Moi, j'ai pas eu la chance de faire d'études et tout, donc je sais pas comment bien travailler, mais j'essaie de faire en sorte que les choses puissent se faire et que ça puisse surtout être reçu avec une belle harmonie, quoi, et avec une belle note. Donc en fait, on s'est surtout posé la question avec Alicia de la note du film et pas tant du CV, quoi.
Donc tu parlais tout à l'heure de légitimité, de pouvoir tourner chez toi, dans ta région. Tu viens de dire que t'as pas fait d'école de cinéma. À aucun moment tu t'es posé la légitimité de savoir si tu pouvais être réalisateur et faire du cinéma, finalement?
Tous les jours, encore aujourd'hui, hein, j'ai pas le sentiment d'avoir la carte, moi. J'avais pas de plan B, en fait, quoi. En fait, pour ceux qui connaissent Longuet, il y a une usine qui s'appelle Bezo, à Saint-Abloy maintenant. Moi, ma mère était là-bas, mon grand-père aussi. Moi, j'y ai travaillé, mes frères. Donc en fait, j'étais à l'usine, et puis à un moment donné, je pouvais plus. Donc je suis monté à Paris et j'avais pas de plan B, en fait, quoi. Je savais pas si je pouvais faire autre chose, quoi. Donc en fait, j'ai fait, et puis j'ai bloqué la porte, je suis passé par la fenêtre. Mais en fait, je dois avouer, c'est pas du tout pour faire du... Mais que le festival Premier Plan et les 400 coups ont été pour moi une porte d'accès. En fait, c'est des lieux qui ont élargi le prisme des possibilités. Parce que j'ai pas un bagage culturel et cinématographique à la base très lourd, quoi. Et donc en fait, c'est grâce à des lieux comme les 400 coups et grâce à des festivals comme le Premier Plan, d'un seul coup, en fait, les choses ont été rendues un peu possibles, quoi. En tout cas, à mes yeux, il y a quelque chose qui s'est ouvert en se disant, ok, en fait, ce type de récit, ce type de choses semble être possible à raconter, donc pourquoi pas moi, finalement.
Tu veux dire que tu as appris, en fait, en regardant du cinéma?
Ah ouais, en lisant beaucoup, et donc les 400 coups dans un premier temps, et puis après, à Paris, je saignais le Quartier Latin, et 3-4 films par jour, de l'école russe, l'école américaine, années 70, ensuite... l'école roumaine, l'école taïwanaise, enfin je faisais des thématiques comme ça par semaine et j'ai appris comme ça, quoi.
Et la question, c'est sur la musique. Je voulais savoir si vous aviez parlé du scénario avant, ils ont vu des images de Longuet avant ou pas, je sais pas.
En fait, les frères Galperine, Sacha et Evgeny, moi j'ai découvert leur travail à travers un film qui s'appelle Faute d'amour de Zaginsev, 2000, 2018, prix Grand Prix à Cannes, je crois. Film extraordinaire que je vous conseille, qui est très très d'une intelligence froide, mais très puissant quoi. Et donc je découvre le film, je suis retourné par le film et surtout par la musique quoi. Donc en fait, je regarde un tout petit peu ce qu'ils font. Bon, Yevgeny Sacha Galperine, je vois que ils sont russo-ukrainiens et je commence à me renseigner. Je demande au producteur de se renseigner parce que je faisais une série qui s'appelait Baron Noir sur Canal+. Et donc pour travailler la musique et tout, il s'avère que les frères Galperine habitent Villejuif quoi, au sud de Paris. Donc hyper simple de rentrer en contact avec eux. On a travaillé ensemble dans un premier temps sur Baron Noir. Ensuite on a deux saisons. Ensuite on a travaillé ensemble sur Ousekine. Ils ont fait en fait la musique d'Ousekine. C'était notre quatrième collaboration, la Pampa. Donc je voulais un tout petit peu casser cette espèce de confort dans lequel on était. Donc en fait je leur ai pas donné de scénario. On a fait deux dîners où je leur ai parlé un tout petit peu justement des fameuses sensations dont on parlait au départ. Je leur ai donné des indications, puis des photos, des peintures, des sensations quoi. Voilà, je me rappelle vraiment de photos de Saul Leiter et d'Antoine d'Agata, des trucs très sombres et puis très solaires, enfin voilà. Et puis ensuite, dans un second temps, quand on a commencé à tourner, je leur faisais des screenshots, donc en fait des photos de ce qu'on tournait. Petit à petit, je sentais que chez eux apparaissait le film et ils m'envoyaient la nuit, donc nous on tournait et la nuit en fait ils m'envoyaient des lignes de piano comme ça sur WhatsApp et tout, et je leur disais le film c'est plus ça, non ça c'est pas ça, le film c'est plus ça. Et en fait ce qui était fou, c'est qu'ils travaillaient à l'aveugle mais ils étaient intensément avec nous, ils étaient intensément dans le film et donc ils ont constitué le film. En fait on a travaillé vraiment en parallèle et on est arrivé en salle de montage avec Lilian Corbeil, le monteur, on avait 80% de la musique parce qu'ils ont avancé comme ça dans des indications en leur envoyant effectivement ces screenshots. Ils ont ressenti de manière très intérieure le film et c'était très rapidement très juste quoi. Donc c'était très particulier puisqu'on est arrivé en salle de montage, ce qui est très rare, on avait quasiment toute la musique du film quoi.
Une petite question sur les motos. Pourquoi la moto déjà, qui a une place très importante, on n'en a pas parlé. Mais justement, est-ce que maintenant, quels sont vos projets? Parce que après avoir fait un film si personnel, que faire maintenant?
Très bonne question. Alors pourquoi la moto? J'ai pas une passion folle pour la moto. Je vais peut-être décevoir beaucoup de gens, mais j'ai pas une passion folle pour cette pratique quoi. Ce qui m'intéressait, c'est que moi en fait la Pampa, donc vous le savez, elle existe vraiment cette Pampa. Elle est à 5 km derrière la maison familiale. Et en fait, quand j'étais petit, moi j'allais en vélo et je les regardais derrière le grillage comme ça. J'avais une espèce de sensation. Enfin, il y avait quelque chose qui me fascinait quoi. Et je mettais ça sur le compte de la moto. Mais quand j'ai grandi et que j'ai déconstruit un peu le truc, je me suis rendu compte que c'était les comportements en fait qui me fascinaient. Le comportement de tous ces hommes là qui testostéronés, qui d'un seul coup devaient montrer à quel point c'était des hommes. Et puis tout ça alimenté par une partie des femmes. Enfin, un espèce de rapport comme ça viriliste, ostentatoire. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui m'avait violenté intérieurement sans forcément le conscientiser, mais que j'ai pu déconstruire. Et du coup, en fait, l'arène de la moto me permettait ça. Me permet de sculpter, de travailler un tout petit peu ce qui me dérange profondément, qui est cette violence typiquement masculine, en fait, quoi. Et puis, dans un second temps, ce qui était intéressant avec la moto, c'était effectivement cette cinématographie. Il y a une dangerosité liée au sport, mais il y a aussi une célérité qui permettait également une célérité d'exécution dans le scénario, quoi. Et la suite? Non, mais j'ai plusieurs projets, en fait. Je travaille toujours sur plusieurs projets. Après avoir été monoprojet pendant longtemps et je me suis rendu compte que ça marchait pas, j'ai tout le temps plusieurs projets. Donc, je faisais La Pampa pendant Ousekine. Pendant l'écriture de La Pampa, j'écrivais un autre truc. Là, j'écris deux autres trucs. J'ai deux projets de film et un projet de série. Un des trois projets se passe dans la région. Voilà. Et c'est une exclue. Hein. Vous êtes les premiers à le savoir.
Merci beaucoup. Merci, Antoine. Et puis, le film, il est en salle. Hein. Il est en salle à peu près partout, je crois, dans toute la France. Ça tourne bien. Il veut dépasser les Tuches. Ce qui vous dit pas. C'est ça le but.
Donc on a du taf. Voilà. Il faut passer des cartes. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.
Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, you don't know me like that. Get back, you don't know me like that. Geek, whoop, whoop. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, you don't know me like that. Get back, you don't know me like that. So come on, don't get swung on, it's the knick-knack, paddywhack, still riding Cadillacs, family off the streets, made my homies put the baggies back, still stacking plaques, still action-packed, and dope, I keep it flipping like acrobats, that's why I pack them.
that'll crack a back. Cause on my waist it's more heat than the Shaq attack. But I ain't speaking about ballin', ballin', just thinking about brawling till y'all start ballin'. We all in together now, birds of a feather now. Just bought a plane, so we changing the weather now. So put your brakes on, caps, put your capes on, or knock off your block. Get dropped and have your face flown. Cause I'll prove it, scratch off the music like, hey, little stupid, don't make me lose it. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, you don't know me like that.
Get back, you don't know me like that.
Geek, geek, woo, woo. I ain't playing around. Make one false move, I take you down.
Get back,
you don't know me like that.
Get back, you don't know me like that.
I saw.
I hit him right dead in the jaw.
In the jaw.
I came.
I saw.
I hit him right dead in the jaw.
In the jaw.
I came.
I saw.
I hit him right dead in the jaw.
In the jaw.
I came.
I saw.
I hit him right dead in the jaw.
In the jaw. See, I caught him with a right hook. Caught him with a jab. Caught him with an uppercut. Kicked him in his. Sent him on his way, cause I ain't for that talk. And no trips to the county, I ain't for that walk. We split like two pins at the end of a lane. We'll knock out your spotlight and put an end to your bang. Put a DTP pendant at the end of your chain. And put the booty of a at the end of a plane.
Geek, geek.
Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear?
Get back,
you don't know me like that.
Get back, you don't know me like that.
Geek, geek. I ain't playing around. Make one false move, I take you down.
Get back,
you don't know me like that.
Get back, you don't know me like that.
Hey, you want what with me? I'ma tell you one time, don't with me.
Get down.
Jesus, I ain't got nothing to lose, and I'm having a bad day. Don't make me take it out on you. You want what with me? I'ma tell you one time, don't with me.
Get down.
Jesus, I ain't got nothing to lose, and I'm having a bad day.
Cause I don't wanna do that. I wanna have a good time and enjoy my jack. Sit back and watch the women get drunk as hell, so I can wake up in the morning with a story to tell. I know it's been a little while since I've been out the house, but now I'm here, you wanna stand around running your mouth. I can't hear nothing you saying or spitting, so what's up? Don't you see we in the club, man? Shut the f*** up.
Geek, geek, woo, woo.
Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear?
Get back.
You don't know me like that.
Get back, you don't know me like that.
Geek, geek, woo, woo. I ain't playing around. Make one false move, I take you down.
Get back,
you don't know me like that.
Get back, you don't know me like that.
We in the red light district. We in the red light district. Woo. We in the red light district. We in the red light district. Woo. We in the red light district.
Et vous venez d'écouter Get Back de ce bon vieux Ludacris, extrait de la bande originale du génialissime Tonnerre sous les Tropiques de Ben Stiller. Génialissime Tonnerre sous les Tropiques, que vous retrouverez lors de nos prochaines soirées Plan Culte.
Et ça tombe bien, puisque ce mois-ci, nous vous nous proposons pas une, mais deux doubles soirées Plan Culte. On fait le point.
Alors ça démarre fort le 11 mars avec un plan culte spécial David Lynch. Et pour commencer, Elephant Man à 20h. Probablement l'un des films les plus touchants de l'histoire du cinéma avec au casting Anthony Hopkins, John Hurt et Anne Bancroft.
Londres, 1984, Frederick Treves, jeune et brillant chirurgien, croise la route de John Merrick, un homme difforme et complètement défiguré, devenu phénomène de foire surnommé Elephant Man.
Et puis on enchaîne avec Eraserhead à 22h. Premier film de David Lynch, Eraserhead est un véritable ovni. expérimental, barré, plastiquement superbe, Eraserhead va nous offrir une plongée dérangeante dans l'inconscient humain et une expérience sensorielle inoubliable.
Un homme est abandonné par son ami qui lui laisse la charge d'un enfant prématuré, fruit de leur union. Il s'enfonce dans un univers fantasmatique pour fuir cette cruelle réalité. La soirée Lynch, c'est le 11 mars à partir de 20h.
Mais il ne vit que pour Marie, il a dans la peau Marie. Son cœur ne bat que pour Marie.
Et là, on vous a vraiment gâté, puisqu'on enchaîne avec une autre double soirée, la spéciale Ben Stiller, avec deux films totalement givrés, et ça se passe le 1er avril.
En première partie à 20h, la comédie déjantée de Peter et Bobby Farrelly, Marie à tout prix, en réédition version restaurée 4K. Un gros casting, puisque nous avons Ben Stiller évidemment, Cameron Diaz et Matt Dillon.
Ted, un gros loser, décide de reprendre contact avec son amour de jeunesse, la splendide Marie. Il engage alors un détective privé pour la retrouver. Mais sous le charme de Marie, celui-ci commence à raconter n'importe quoi à Ted. Qu'elle est devenue grosse, qu'elle est devenue paralytique et qu'elle a 4 enfants. S'ensuit alors une guerre loufoque pour conquérir le cœur de la douce Marie.
Puis, à 22h15, le totalement frappé Tonnerre sous les tropiques. Encore plus gros casting, Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr. et Tobey Maguire, entre autres.
Une comédie jouissive à l'humour régressif et rentre dedans. Cette grosse farce intéresse surtout par son discours réflexif sur un système hollywoodien sans pitié pour ses acteurs. On retrouve un Tom Cruise survolté dans un rôle improbable que nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir dans nos salles. La soirée Ben Stiller, c'est le 1er avril à partir de 20h.
Ressentez-vous des vertiges?
Je crois que j'ai un peu la tête qui tourne.
Oh, wow! Vous avez vu ça?
À ce stade, je serais pas surpris que vous vous demandiez pourquoi j'ai fait ça. Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre.
Vous postulez pour devenir un remplaçable?
Oui.
Et vous avez lu tout le formulaire?
Quand vous mourrez, nous imprimerons une nouvelle version de votre corps.
Ouais, j'aurais dû tout lire. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission.
Chaque fois que vous mourrez, nous apprenons quelque chose. Et l'humanité progresse.
Il est vivant.
Ça va.
Jay, tu m'as l'air mal barré.
Ouais, je sais.
Tu dois avoir l'habitude maintenant, mais ça fait quoi de mourir?
Même si j'en suis à ma 17e fois, je déteste ça.
Passons au petit récap de nos films à venir ce mois-ci, à commencer par le nouveau Bong Joon-ho que vous connaissez sûrement pour Memories of Murder, Snowpiercer et puis l'inoubliable Palme d'Or 2019, Parasite.
Il revient ici avec Mickey 17, une comédie satirique avec en tête d'affiche Robert Pattinson, mais également Toni Collette, Mark Ruffalo ou encore Steven Yeun. Vous l'avez peut-être deviné avec la bande-annonce, mais pour Mickey, mourir est une habitude, car il est consommable et s'est engagé volontairement pour tester les dangers auxquels est soumis l'humanité. En cas de décès, il se retrouve régénéré par la plupart de ses souvenirs, mais que se passerait-il si Mickey 17 survivait à Mickey 18?
Eh bien, réponse aujourd'hui, puisque le film sort sur nos écrans, on a méga méga hâte.
Puis le 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous proposons en avant-première un documentaire bouleversant. Black Box Diaries est le premier film de la journaliste et réalisatrice japonaise Shiro Ito, qui brise ici le tabou du viol au Japon.
Depuis 2015, Shiro Ito défie les archaïsmes de la société japonaise suite à son agression sexuelle par un homme puissant, proche du Premier ministre. Seule contre tous et confrontée aux failles du système médiatico-judiciaire, la journaliste mène sa propre enquête, prête à tout pour briser le silence et faire éclater la vérité.
Ça se passe le 8 mars à 17h30, le film sera à l'affiche à partir du 26 mars.
Où est-ce que tu vas?
Confidentiel.
D'accord. Tu m'as demandé comment ça marche quand on est avec quelqu'un dans ce milieu. Eh bien voilà. On sait chacun ce qu'on sait et on sait ce qu'on fera et il y a certaines choses dont on ne parle plus jamais. Je la surveille et je pars du principe qu'elle me surveille aussi. Je ferai n'importe quoi pour toi.
C'est vrai?
Oui.
Si les événements t'obligeaient à choisir, tu ferais passer ton couple avant tout?
Je suis dévouée à ma vie conjugale. C'est mon point faible professionnel. Je t'aime.
Il y a une faille de sécurité.
Qu'avez-vous fait?
Quelqu'un de chez nous a volé quelque chose. Quelque chose de très précieux.
Vous n'imaginez pas les dégâts. Identifiez la fuite.
Combien de temps il faut?
Laisse-moi 2 semaines.
Des innocents mourront par milliers.
Ok, 1 semaine. Qui est le suspect?
Ta femme.
Je sens quand tu m'observes.
Désolé.
J'aime ça.
Si on a le droit de mentir sur tout, si on peut nier tout ce qu'on veut, alors c'est quand qu'on peut dire la vérité?
J'aurais besoin de rerouter un satellite. Mais il faut que ce soit officieux.
T'es un très vilain mari, Georges.
Tu vois, c'est pas normal. Ta façon de faire, faut que tu le saches.
Qu'est-ce qu'il y aura au menu?
Une partie de plaisir.
C'est vrai? Personne ne peut te mentir?
Je déteste les menteurs. Si c'est Catherine, t'es sûr que tu vas pouvoir le faire?
Je n'en sais rien.
En fait, si ça se trouve, c'est ton coup de maître absolu.
C'est un métier très dangereux.
Assurément.
Est-ce que tu tuerais pour moi, Georges? Tu le ferais.
Et pour finir, The Insider, le nouveau film de Steven Soderbergh, après la saga Oceans, Magic Mike ou encore le très récent Présence, le réalisateur revient avec un nouveau film d'espionnage, mais plus noir cette fois-ci.
Alors que l'agent de renseignement Catherine Woodhouse, jouée par Cate Blanchett, est soupçonnée d'avoir trahi la nation, son mari, interprété par Michael Fassbender, et également agent, fait face à un dilemme. Doit-il être loyal à son mariage ou à son pays? On vous laisse méditer là-dessus, et en tout cas la réponse est le 12 mars dans votre ciné préféré.
Voilà, l'émission touche à sa fin. Pardon. Merci de nous avoir écoutés. Bien sûr, vous retrouverez notre programmation et tous nos événements sur www.lesquatresanscoups.org et sur nos réseaux sociaux.
Alors d'ici là, courez dans les salles. On se retrouve le mois prochain sur Radio Campus Angers 103 FM. Salut Cécile.
À bientôt Georges.
Les 400 coups.
Une émission à retrouver en podcast sur www.radiocampusangers.com.